Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée sur le Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette interview, je suis avec Elodie. Salut Elodie.
Salut Cyrus.
La patate.
Ouais. Ah, trop super. Cool d'être là.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et bien pour cette nouvelle interview, nous recevons Johan Brogol de Subverti. Bonjour Johan.
Salut tout le monde.
Tu vas bien ?
Je vais très bien. C'est le début du festival, on est déjà un peu fatigué, mais ça annonce de belles choses.
Ah oui, parce que là on est jeudi.
C'est ça, oui.
Ouais, parce que en fait pour les auditeurs auditrices, on enregistre ces interviews donc à différents créneaux, mais en revanche on les rediffuse pas forcément dans le même ordre. Alors souvent il y a des petits anachronismes, il y en a qui font oh là là, on est le matin machin, et puis en fait enfin on est dimanche, mais c'est la première interview qui sort. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'était juste pour replacer le petit contexte. Donc Johan Brogol, tu es le patron. Président, directeur général et homme qui fait le café de Subverti, c'est ça ?
Oui, on peut résumer comme ça. Alors, j'aime pas le terme patron parce que pour moi, c'est une aventure collective.
Ouais.
Et même si effectivement, j'ai fondé Subverti, par exemple, quand on travaille avec les auteurs, les autrices, les illustrateurs, les illustratrices, ils sont aussi importants, si ce n'est plus important que mon travail. Et sans eux, il n'y aurait pas de jeu. Alors là, je parle des ouais. métiers artistiques qui sont évidents. Mais voilà, officiellement, juridiquement, je suis tout seul dans la boîte, mais dans la réalité des faits, on est vraiment nombreux à travailler pour les jeux.
Nous allons te proposer de soumettre au fil rouge de cette année, qui est un fil rouge en mêlée. Donc c'est un fil rouge. Le principe, c'est qu'on pose les mêmes questions à tous nos invités, sauf que cette fois, les réponses vont être mélangées. Et donc charge aux auditeurs auditrices de tenter de replacer les bonnes réponses au bon endroit. Alors moi, il y a des petits indices normalement qui devraient pouvoir les aider. En tout cas, on a travaillé les questions pour que ça soit retrouvable. Et puis, au pire, on mettra les vraies réponses que tu nous as vraiment fournies, en tout cas le bon ordre, dans les commentaires d'ici 10-15 jours après l'apparition de l'interview.
C'est ça, faut imaginer que le chat du logo de Subverti est venu jouer avec la pelote là et a emmêlé tout le fil.
J'imagine très bien, très crédible.
Quel est ton jeu Madeleine de Proust ?
J'essaie de me souvenir dans ceux qui m'ont marqué plus jeune, ce qui a pu vraiment faire une différence. Ah, j'en ai plein, parce qu'il y en a que je prends pour le métier, pour voir ce qui se fait. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de honteux actuellement dans ma ludothèque? C'est aussi une petite pique, parce que un auteur toulousain qui a participé à ça. J'ai Le Jeu du Doigt, qui avait été offert à Cannes. J'avoue que je n'ai pas accroché, que j'ai pas joué dans les bonnes conditions, on va dire. Mais c'est pas forcément le jeu que je sortirais le plus facilement aujourd'hui. Okay.
Quel est ton genre de jeu préféré ?
Alors moi je suis très compète, donc ouais. J'adore les jeux qui ont une vraie compétition. Donc j'aime bien les jeux stratégiques mais avec des règles simples. Alors, je sais pas, okay. C'est pas vraiment un genre, mais c'est vraiment peu de règles mais de la profondeur stratégique de jeu. Et parfois il y a de la subtilité dans l'élégance de ça. Et c'est aussi un type de jeu qu'on essaie de créer. Mais okay. Si je devais résumer, c'est vraiment des jeux épurés, mais stratégiques.
Ok. Alors du coup, quel serait ton jeu préféré dans ce genre-là ?
En jeu d'ambiance récent, il y a Traître à boire qui fonctionne pas mal, qui pourrait okay. peut-être permettre de facilement jouer comme ça.
Alors, est-ce que tu peux nous citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque, mais dont tu as un peu honte ?
Ça dépend des moments, il y en a beaucoup, il y en a certains que j'ai plus joué que d'autres. J'avais, je sais pas si ça rentre vraiment dans le jeu, j'avais beaucoup joué à Living Forest.
Living Forest.
Qui avait cet aspect-là. Mais il a quand même quelques règles, donc c'est pour ça que je suis en mode, ça rentre pas vraiment dans le là-dedans, mais j'avais beaucoup aimé ce côté-là. J'avais gagné un petit tournoi à Paris Ludique sur ce jeu-là, en réel. C'était assez marrant parce que j'avais appris à jouer sur BGA et du coup d'avoir le côté vrai jeu, c'était très intéressant.
Tu pars 3 semaines et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Tu prends lequel ?
Est-ce qu'il y aura de tricher en prenant un jeu avec lequel on peut faire plusieurs jeux ?
Comme tu veux.
J'invente des jeux pendant les vacances de 3 semaines. Je crois que j'ai beaucoup aimé Labyrinthe que j'avais pas chez moi, qui était dans un petit foyer auquel on allait et qui m'avait toujours marqué. Je sais pas, et je me suis rendu compte maintenant qu'en fait il avait une sorte de modernité qu'on retrouve pas dans ces jeux-là. Mais j'avais beaucoup aimé ce petit jeu à l'époque. Je sais pas si vous vous situez.
Mais... Ah ouais, je vois
tout
bien.
À fait, ouais. Mmh. Tu es invité pour une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Tu dois ramener un jeu. Lequel ?
Si je dois en choisir un, alors si je pars à plusieurs, je pense que je prendrai Cosmopolite.
Ok.
Qui, je trouve, permet d'aller assez loin dans le... Bah, dans un moment de partage avec les gens.
T'avais prévu un tournoi de Challengers à 8 et tous tes amis t'ont fait faux bon. Vous êtes deux. Tu joues à quoi ?
J'aurais aimé inventer en tant qu'auteur.
Ouais, en tant qu'auteur.
Mmh. En tant qu'auteur, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai trouvé très élégant, la mécanique dans la réalisation. Une question assez dure parce que chaque jeu a un peu sa façon d'être créé. Que j'aurais bien aimé créer, je trouve qu'il y a Wingspan qui est intéressant dans son apport à la fois sur une mécanique intéressante et un thème, parce que je lis les deux dans la création, ouais. Dans la création du jeu, et un thème qui était assez chouette, je trouvais, sur l'approche. Bravo, Elisabeth.
Quel jeu aurais-tu aimé inventer ?
À l'Enfance de Troyes, parce que j'ai beaucoup aimé cette BD, et okay. je crois que je l'ai vu passer dans le train, parce que j'ai croisé l'auteur et l'autrice.
Ok.
Et je me suis dit, mais il faut vraiment que j'y joue à celui-là, j'y ai pas encore joué.
Rémi Nathalie-Saunier, que vous avez peut-être déjà entendu dans une interview, que vous entendrez prochainement dans une interview, puisqu'on va les recevoir sur le festival également. Quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de cette interview ?
Aux échecs.
Très bien, mais écoute, merci beaucoup pour ces réponses, ce fil rouge emmêlé. Nous allons passer à la vraie interview maintenant.
Donc, Subverti, c'est à la fois un atlas des festivals, des éditeurs, des associations et des boutiques, et de l'édition de jeux, ça ?
Alors, officiellement, c'est de l'édition de jeux. Effectivement, on essaie de créer des outils qui permettent, on va dire, au monde du jeu de grandir et de toucher plus de public. Quand on s'est lancé en 2019, j'ai voulu aller dans les festivals et j'ai pas trouvé de liste claire et pratique pour faire ça. Et je me suis dit, en fait, on va la faire, tout simplement. Il doit y avoir une cinquantaine de festivals en France, ça va être facile. Bon, en vérité, aujourd'hui, il y en a 500 de répertoriés sur le site et ça continue à grandir parce qu'il y a des nouveaux festivals qui se créent. Et surtout, cette carte a participé à nous faire... Alors là, je parle des festivals, mais on a effectivement d'autres cartes sur l'Atlas. A participé à faire connaître le monde du jeu à des gens qui, aujourd'hui, se servent concrètement de ça. Mais c'est un outil qui est gratuit et qui nous rapporte clairement pas d'argent, mais qui permet dans notre mission de diffuser le jeu au plus grand nombre. Qui est vraiment important pour nous et qui effectivement fait partie de notre ADN essentiellement. Mais on est une maison d'édition avant tout.
Je comprends du coup pourquoi tu as eu ce besoin, à la base c'était un besoin pour toi de répertorier les festivals, mais pourquoi tu as continué en mettant du coup maintenant les éditeurs, les associations, les boutiques ?
Bah parce que ça sert aux gens et que les gens me disent merci, ça leur permet de faciliter parfois leur travail ou parfois leur... Par exemple, on parle des auteurs et des autrices, ça leur permet de pouvoir chercher des éditeurs qui peuvent correspondre à leurs propositions, à leurs prototypes. Pour le public, en général, ça permet de voir les festivals qui existent proche de chez soi. On se rend compte qu'il y a plein de festivals, des fois, ils n'ont pas forcément les leviers pour communiquer. Et aujourd'hui, sur Internet, c'est important d'exister.
Ok. Et comment ça a alimenté tout ça ?
Alors, pour que ce soit durable, on a un peu pris le modèle, alors, et simplifié évidemment, mais de Wikipédia, c'est-à-dire que c'est participatif. Et chacune et chacun, on peut modifier la carte. Alors, on vérifie pour pas que ça devienne n'importe quoi.
Ouais.
Mais chacun peut aller sur les fiches et demander une modification ou en rajouter une si elle n'existe pas. Et après, derrière, nous, on fait une vérification et on met à jour le site environ une fois par semaine. Alors, je dis ça cette semaine. il sera mis à jour la semaine prochaine. mais bon, c'est vraiment sur le principe, c'est ça. Et on a de plus en plus d'acteurs qui apprennent à utiliser la carte et qui savent, par exemple, quand t'es une association qui organise un festival, tous les ans, c'est bien de la mettre à jour dès qu'il y a les infos, ça permet de diffuser l'information au plus grand nombre. Et nous, dans notre logique globale, on est ravis de participer à ça à notre échelle.
Quand tu dis nous, c'est nous en tant qu'entité subvertie,
oui.
Ou c'est
nous c'est en tant qu'entité subvertie. Alors,
tu te nounouas.
Je me nounouas, on peut dire ça comme ça. Non, mais en vérité, c'est que ce travail-là, comme les gens participent, c'est encore une fois pas un travail solitaire. Et là, je suis en train de mettre en place des choses pour que ce soit pas moi qui concrètement mette à jour le site.
D'accord.
Et que l'idée, c'est que en vrai, on s'en fiche un peu que ce soit moi ou pas moi. L'idée, c'est que l'outil puisse se pérenniser.
D'accord.
Et qu'il soit solide pour participer à, être durable et à servir au maximum de personnes sur la durée. Et encore une fois, quand je parlais de collectif au début, c'est l'idée que, en fait, c'est pas ma personne qui est intéressante, c'est ce qui est créé derrière. Et cet atlas, il sert vraiment concrètement. Et il y a plein de gens à qui ça sert, donc nous sommes ravis que qu'il soit utile à la communauté du jeu en général et qu'il agrandisse la communauté du jeu au
mais,
maximum du monde.
Mais concrètement, du coup, parce que enfin aujourd'hui, j'imagine effectivement, t'es là pour vérifier, tu valides le truc, éventuellement tu corriges une donnée. Mais il faut bien que quelqu'un effectivement confirme, valide.
Oui, c'est moi qui concrètement valide, mais du coup c'est automatisé. Il y a des outils. Comme on essaie d'avoir un impact écologique le plus faible possible, le site il est aussi fait d'une façon qui consomme moins d'énergie que les sites classiques. Mm-hmm. Et du coup on appelle ça un site statique. Et en fait c'est des fichiers qui sont mis à jour sur le site. Et moi je vérifie juste que tout va bien avant d'envoyer, d'appuyer sur le bouton.
D'accord.
Pour que la mise à jour se fasse, mais quand il y a des erreurs, c'est pas grave, la mise à jour d'après
c'est
corrigé quoi. Faut vraiment le voir dans cet esprit Wikipédia que j'aime bien prendre comme exemple.
On voit déjà rien que sur ce sujet, il y a beaucoup de réflexions.
Oui,
chez toi.
On essaye. J'essaie de réfléchir à pas juste le faire pour le moment et faire un coup, mais juste de dire comment on pourrait sur la durée.
Ah, juste pour conclure quand même sur cet aspect Atlas, hein, du coup, ça te prend encore combien de temps de que ce soit en alimentation du site et en gestion ou développement des outils qui vont bien?
Alors, comme il y a de plus en plus d'acteurs qui connaissent le sujet et qui se rendent compte de l'efficacité de l'outil, ça a tendance à prendre beaucoup de temps. Et là, je pense que je suis à 3-4 heures par semaine.
Ouais, quand même. Hein.
Et c'est pour ça que je suis en train de dire que faut pas que je fasse ça, parce que l'outil il est utilisé par d'autres.
Et c'est beaucoup visité cette partie. T'as des stats?
Oui.
Ouais.
Alors là, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on est à plusieurs depuis le lancement. Enfin, ça fait 4 ans, mais c'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs sur les cartes. Il y a plus en fait aujourd'hui pour Internet, il y a plus de gens qui visitent les cartes que qui visitent le reste du site.
Oui.
Parce que le reste du site, les informations sur les jeux, elles sont dédoublées sur d'autres sites d'information.
Oui, c'est clair.
Comme aujourd'hui, il y a certains acteurs, ou même on parlait des festivals, mais par exemple des éditeurs, ils n'ont pas forcément des maisons d'édition ou des associations, n'ont pas forcément la capacité de créer un site. Donc, du coup, leur page sur notre atlas leur permet d'avoir une porte d'entrée avec un mail, un numéro de téléphone, n'importe quoi, ou une page d'un réseau social, et qui du coup leur permet d'avoir un référencement correct et eux derrière de diffuser leurs infos.
Ouais, ok, d'accord. On va peut-être parler maintenant du coup de la partie édition de Subverti. Oui.
Qu'est-ce que tu peux nous raconter les débuts? Comment Subverti s'est créé?
Oui, alors à la base j'avais créé un jeu qui s'appelle Révolution, qui devait être d'ailleurs au tout début un jeu web. Alors à l'époque, il y a très longtemps, il y avait des, pour ceux qui connaissent, des choses comme Nawa, Cogame ou Ideo le jeu, qui étaient des petits jeux qui se jouaient par navigateur. Et c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans, et j'avais envie de faire un petit jeu en me disant bah tiens, on va faire un petit jeu sur une proposition un peu plus engagée déjà à l'époque, et j'avais acheté un nom de domaine qui était lié à Révolution, etc. Et la vie fait que j'étais parti sur d'autres choses, et le nom de domaine est arrivé à expiration, et j'ai eu une petite alerte en me disant ah bah tiens, ton nom de domaine arrive à expiration, qu'est-ce que t'en fais quoi. Et j'ai dit ah bah c'est marrant, ce projet il a jamais arrivé au bout, ce serait bien de le finir. Et à cette époque-là, je commençais à réfléchir sur comment faire pour créer des choses peut-être sans écran. Et il y a eu cette réflexion de se dire que peut-être que le jeu de société devient un médium très intéressant pour parler de sujets qui se veulent engager. Donc j'ai été au bout de l'idée, j'ai créé un petit jeu dans mon coin qui s'appelait Révolution. On a fait une petite campagne sur Ulule, on a fait quelques exemplaires, j'ai perdu un peu d'argent, et j'ai fait « c'est génial de créer des jeux, mais on va faire ça bien ». Et je me suis rendu compte que la partie qui me paraissait le plus intéressante de mon côté était peut-être la partie éditoriale. Et donc j'ai lancé une maison d'édition qui porte en son nom et en son logo cette idée qu'en fait, le jeu, ça peut avoir des effets pour tout le monde. Et après, il y a eu le Covid. Le temps s'est arrêté. Mais c'est intéressant de voir que la réalité peut rattraper n'importe quel milieu, y compris des milieux où on essaie de s'abstraire des fois de cette réalité. Et on a commencé à mettre il y a eu plein de petites choses, mais on a lancé, j'ai lancé Climato qui était encore en auto-édition, et derrière Dictopia qui était le premier jeu fait par un vrai auteur, mais en gros un auteur externe qui était Jérémy Partinico.
Pas toi, quoi.
C'est ça. On va dire passer le niveau après de l'auto-édition qui est vraiment de se dire, ok, je me concentre sur l'édition et le côté autorat, on va laisser ça à des bons auteurs de jeux ou des bonnes autrices.
Ce moment où t'es passé au nous, en fait.
Exactement. En fait, c'est une aventure collective. Et donc, il y a eu Dictopia, puis Biomos. Et Biomos était le premier où c'était à la fois l'auteur et à la fois l'illustrateur, n'était pas moi. Et on se retrouve à être plus serein sur ce qu'on fait et à trouver un équilibre économique malgré toutes les contraintes qu'imposent nos valeurs qu'on se met, que tout le monde ne se met pas. Et c'est très chouette. Et ça donne envie d'aller encore plus loin et de montrer que c'est possible de faire des jeux avec une vision éditoriale engagée.
Parlons déjà de la recherche du distributeur. Toi, comment ça s'est passé déjà de ton côté? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs différents.
Alors clairement, il y a différents métiers dans le monde du jeu. Le métier du distributeur est important, mais comme dans tous les milieux, que ce soit culturel ou même dans le milieu alimentaire, la place du distributeur est prépondérante parce que c'est un peu eux qui ont la capacité aujourd'hui de diffuser à grande échelle les choses, donc dans le système traditionnel. Quand je me suis lancé, moi, j'ai pas du tout réfléchi à ça. J'ai fait un jeu et je me suis dit, tiens, on va le diffuser aux gens, c'est chouette. Il se trouve que j'ai fait Paris Ludique.
C'était Révolution, c'était un financement participatif.
Financement participatif, auto-édition.
Que tu as reçu dans ton garage et que tu as envoyé par la poste, c'est ça?
Exactement. On apprend plein de choses en faisant ça, mais c'est pas très rentable, mais on apprend plein de choses. Mais c'était très intéressant. Et en fait, ce jeu-là, bah, je l'ai montré dans les fameux festivals, dont Paris Ludique, où il y a un distributeur qui m'a approché de lui-même,
d'accord,
qui est Matt Distribution, et qui m'ont un peu fait découvrir ce monde de la distribution et qui m'ont accompagné sur la diffusion de Révolution, puis de Climato.
Climato,
là-dessus. Et ensuite, les choses évoluant, je suis allé chez BlackRock Games. Il y a beaucoup d'éditeurs et d'éditrices qui ont besoin de distribution. Et c'est un vrai sujet de tous les côtés. On parle beaucoup de combien de jeux sortent dans le monde du jeu. Est-ce que tous les jeux sont nécessaires ou pas? C'est des questions qui sont un peu impossibles à résoudre parce que qui tu décides qui est pas légitime ou qui est légitime? Alors certains ont des avis, souvent je suis pas d'accord, mais en même temps c'est un peu ce qui est intéressant dans l'art et la créativité, c'est que c'est bien de créer, mais derrière mine de rien, il y a pas tant que ça de jeux qui sont créés par rapport aux idées qu'il y a et au nombre de propositions qui existent.
C'est vrai.
Ce côté distribution est vital, et aujourd'hui on est content d'être avec BlackRock Games qui nous permettent de défendre nos jeux.
Ouais.
Comme on l'entend, sachant qu'il y a la branche distribution nationale et distribution internationale.
Ouais.
C'est encore un autre sujet.
T'es distribué à l'international chez BlackRock?
Ouais, également sur les deux, parce que justement, sur ces sujets-là, j'ai envie de me concentrer sur la création et de pouvoir avoir des partenaires de confiance qui permettent de défendre nos jeux avec différents acteurs. Et encore une fois, c'est pas quelque chose tout seul dans son coin. C'est les jeux n'existeraient pas sans tous ces acteurs qui existent, et chacun et chacune est un peu indispensable à ça. Par exemple, par la distribution, l'étape d'après, c'est où c'est, dans quel magasin c'est, dans quel type de magasin c'est, grande surface alimentaire, boutique spécialisée, qui défend les jeux, comment on les défend. En fait, on va pas avoir la même chose, le même conseil, parfois pas de conseil dans certains endroits.
Est-ce que t'as ton mot à donner là-dedans, à dire je suis ok pour que ma gamme de jeux soit distribuée à tel et tel endroit?
Oui, tu peux, oui, bien sûr. Mais t'as ton mot à donner, mais t'as aussi si tu veux exister, tu dois choisir où tu mets tes limites et quels sont tes partenaires potentiels, et de voir quel combat tu fais. Et que les modèles qui aujourd'hui peuvent être défendus comme étant évidents et normaux le seront peut-être pas demain. Et peut-être que certains modèles, et ça c'est quelque chose que moi je vais défendre, actuels, nous font aller dans le mur d'un point de vue, par exemple, écologique.
Si je reviens du coup sur BlackRock, là, sur la partie distribution, donc toi, t'es passé de MAD à BlackRock pour essentiellement des notions de diffusion de tes jeux. L'élargissement de la diffusion, c'est ça?
Notamment, oui. Ouais. Après, c'est des choix qui sont faits en fonction du type de jeu aussi qu'on veut faire. Tout le monde, encore une fois, c'est quelque chose qui est fait de façon subjective. Aujourd'hui, le catalogue de BlackRock Games est très grand public.
Ouais. Mad, c'est peut-être un peu plus core. Hein.
Alors, et ils ont en fait d'autres produits. Et voilà. Après, certains vont vous dire, mais en fait, c'est pas forcément vrai, ça dépend des produits, etc. On a fait ce choix-là et on a eu la possibilité de faire ce choix-là. C'est des grandes lignes.
On va peut-être parler un peu de ta ligne éditoriale maintenant, parce que bon, là, je pense que les auditeurs et les auditrices auront déjà capté pas mal de choses dans ton discours. Quand on regarde sur ton site, dans ta communication, je lis deux choses essentiellement. Il y en a d'autres. Tu parles de gens engagés.
Oui.
Tu l'as évoqué plusieurs fois. Hein, et tu parles aussi de fabrication écologique. Donc déjà, si on va sur le terrain des gens engagés, ça veut dire quoi?
Alors, c'est une très bonne question. On vient de lancer récemment avec d'autres éditrices, éditeurs, mais aussi d'autres acteurs, un collectif de gens engagés. Et on est justement en train de définir qu'est-ce qu'on entend par gens engagés.
Alors, quelle est ta définition à toi?
Alors, on a fait un manifeste qui est disponible sur Internet, où il y a si vous cherchez collectif de gens engagés, qui explique un peu ce qu'on entend par jeu engagé. Globalement, moi, en tant que subverti, la notion de jeu engagé, c'est de se dire que le jeu n'est pas juste un divertissement. Donc, divertissement dans cette définition on veut oublier le monde réel et juste être dans une poche fictive de dire il se passe quelque chose. Je suis fondamentalement convaincu que le jeu de société est un art, est un objet culturel, et qui dit art et objet culturel implique que le jeu fait plus que juste divertir. Il te crée une sensation, il a un propos, il a une intention. Et quand on réfléchit, la plupart des jeux, qu'elles soient très marquées ou peu marquées, qu'elles soient assumées ou non dites, elles disent quelque chose. Elles disent quelque chose du monde, elles disent quelque chose de ce qu'on perçoit, de ce qu'on voit, et elles nous modifient. C'est ça que je trouve absolument génial dans le monde du jeu, c'est qu'on est dans l'objet jeu, c'est qu'on est acteur et actrice de ça. Et du coup, ce truc de dire on fait des jeux engagés, c'est de dire on assume le fait qu'on a un propos, et en fait, on va même le marteler, le marquer de façon assez, assez évidente en abordant des thèmes qui nous paraissent être des thèmes qui en fait sont peut-être évidents dans la culture en général, mais qui paraissent pas si évidents que ça dans le monde du jeu. Comme si dans le cinéma, c'est évident, il y a un cinéma engagé où il y a des propos forts qui sont faits, qui touchent les gens, qui divertissent les gens, mais qui les font aussi réfléchir. Dans la littérature, il n'y a pas de débat. Et tu vas me dire, oui, mais ces arts-là, c'est un peu différent. Le jeu, c'est différent. Ok, parlons du jeu vidéo. Il y a une scène engagée et un dé très fort dans le jeu vidéo. Pourquoi il n'y en a pas? Alors, en vérité, il y en a une, mais pourquoi elle est si faible aujourd'hui dans le monde du jeu de société? Et nous, notre conclusion, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui ont peur parce que faire différemment, ça fait peur. Et nous, on veut défendre cette vision-là avec d'autres, évidemment, acteurs et actrices qui font ça chacun à leur manière. Mais de se dire, en fait, il n'y a aucune raison que si on a un objet culturel, si le jeu est un objet culturel, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une scène engagée dans le milieu du jeu.
Oui, quelque part, si j'essaie de retranscrire ce que tu dis, mais tu vas me dire si c'est ça ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer, prendre plaisir dans la partie, ça ne nous empêche pas de réfléchir a posteriori, éventuellement, sur ce qu'on a fait, ce qu'on a joué, les implications que ça peut avoir. Ce serait ça la partie engagée, finalement.
Oui, il peut y avoir la façon d'être engagé. Les jeux, par essence, ils apportent quelque chose. Mais ils disent aussi une vision du monde. Si on fait un jeu, je prends des thèmes qui sont volontairement des thèmes qui existent dans le monde du jeu aujourd'hui. Quand on fait un jeu sur les pirates, quand on fait un jeu sur un zoo, quand on fait un jeu sur des sujets comme ça, on parle d'une vision du monde, on normalise une vision du monde. Quand je fais un jeu sur la révolution et qu'on dit « Ah oui, mais du coup, c'est violent, il y a une action violente dans le jeu. » Quand tu joues des pirates ou tu joues des jeux de guerre, il y a des actions bien plus violentes que ce que je propose dans la révolution. Pourquoi est-ce que ça choque pas là-dedans? Ça a été normalisé d'une certaine manière. C'est très chouette de créer des règles, d'inventer un monde où il y a des règles qui sont fictives et qui, évidemment, ces choses-là font écho à la réalité. Je suis, par exemple, un très grand fan d'anticipation. Tu vas dire, l'anticipation, souvent c'est dans le futur, on imagine des sociétés qui n'existent pas. Mais en fait, l'anticipation a dit beaucoup de choses sur le monde réel. Il y a plein de choses qui ont été écrites. Je pense à des classiques comme 1984, Fahrenheit 451. Ils parlaient du monde réel, évidemment qu'ils parlaient du monde réel. Ils utilisent un média, ils utilisent une vision du monde en disant, tiens, dans ce monde-là, il y a ces règles-là pour dénoncer des choses du monde réel. Donc, en fait, ça existe. Et que tu le veuilles ou non, quand tu abordes un thème et quand tu mets en avant un thème, tu parles d'une vision du monde et tu défends les choses. C'est juste que les gens ne l'assument pas. Donc, pour reprendre le truc de déficient engagé, c'est un peu de dire d'assumer qu'un jeu a un propos et que les choses ne sont pas neutres. La neutralité, ça n'existe pas.
Est-ce que tu peux nous dire pour chacun des jeux que vous avez sortis, en quoi c'est engagé? Parce que, par exemple, Biomos, c'est vrai que des jeux autour du thème de l'environnement, on en a vu plein ces derniers temps. Quel est l'apport de ta maison d'édition sur un thème comme ça?
Alors, pour Biomos, clairement, pour moi, c'est peut-être déjà plus engagé. Genre, j'ai aucun problème à le dire. C'est quelque chose qui pour moi, est potentiellement acquis sur ce qu'il faut, sur que c'est une évidence. Mais c'est un peu histoire de renfoncer le clou, de dire, rien que pour la beauté de la nature qu'on met en avant dans Biomos, comment tu peux encore défendre autre chose que juste défendre la nature, tu vois? Et c'est plus si engagé que ça parce que c'est accepté. Le but, c'est que chaque jeu aborde un propos. Donc, sur Révolution, alors Révolution est un peu global et puis il était avant certaines réflexions qu'on a maintenant, mais concrètement, c'est de mettre le sujet comme un sujet, de dire, en fait, pourquoi pas, tu vois, réfléchissons à qu'est-ce que ça implique. Et dans le jeu, on joue tous ensemble contre une dictature qui est représentée par le jeu. C'est-à-dire que personne joue le dictateur. C'est pas quelque chose qui est accessible aux gens, hein, en réalité. Tu vois, des réflexions, après, j'ai pas allé trop loin dans la théorie politique, mais de comment s'organiser ensemble pour remettre en chose. Donc il y a un peu un côté social là-dessus. Et après, chaque jeu a vraiment on essaye, hein, parce que c'est toujours une proposition et chacun se l'approprie comme il veut, hein. C'est pas du tout on dit pas c'est comme ça qu'il faut penser. C'est genre, c'est ça qui est bien aussi dans le jeu, c'est qu'on propose quelque chose et chacun se l'approprie, et des fois de façon très différente. Mais dans Climato, le thème, c'est l'énergie. Et en fait, l'énergie, je pense que c'est quelque chose de très important dans comment on développe nos sociétés actuellement, et qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur comment ça fonctionne. Donc, des débats sur le pétrole, le nucléaire, les éoliennes, tout ce que vous voulez. On a des données scientifiques de comment ça fonctionne, mais c'est pas si simple que ça à comprendre de premier abord. Et ce jeu-là proposait de dire, voici quelques clés. C'est de la vulgarisation, ça a ses limites, mais au moins, ça nous fait réfléchir, ça nous fait essayer d'agir dans cette réflexion-là. Dystopia, le suivant, il parle du langage, le pouvoir des mots, est évidemment fondamental sur les idées et sur comment est-ce qu'on développe des idées, et comment on les défend, mais aussi comment on s'approprie et qu'on se dit, les mots, c'est quelque chose qui, c'est un pouvoir, en fait, et chacun devrait, ou chacune devrait essayer de se l'approprier. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que on a eu beaucoup de gens qui étaient en mode, ah, moi, les jeux de lettres, c'est pas fait pour moi. C'est quelque chose d'élitiste parce que on a été, d'une façon ou d'une autre, globalement, là, je fais évidemment des généralités, mais on a été un peu, les mots, c'est de l'humour, on va dire, à grande échelle, c'est un peu quelque chose d'élitiste et on voit pas forcément, c'est pas accessible à tous, ou à toutes. Mais en fait, c'est faux. Le langage, il a pas de valeur parce que c'est un langage soutenu ou que c'est un langage parlé dans la rue. Et tous ces mots-là, ils ont la même valeur. Et dans Dystopia, on redonne, on va dire, la réalité de ce qu'est le langage et qu'en fait, chacun et chacune se l'approprie. Et on a eu des beaux effets où on voyait les gens qui disaient, mais en fait, il n'y a pas de problème si c'est amené d'une certaine façon. Et le prochain jeu qu'on sort en septembre, qu'on commence à montrer là à Cannes, donc je peux en parler, s'appelle Mix Art. Il est sur le street art. Et en fait, il n'y a pas tant de jeux que ça sur le street art. Mais nous, ce qu'on aborde plus que le street art, c'est la place de l'art dans nos sociétés, la place de l'humain dans l'art. On va faire appel à beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices différentes qui vont chacun apporter leur patte et de montrer que c'est intéressant de donner la valeur à l'art et où est l'art dans sa légalité, dans son illégalité, sa place dans la rue. Où parfois, on regarde avec dédain un tag qui a été fait rapidement. Mais est-ce que c'est pas mieux qu'un mur tout gris qui ne nous fait pas rêver? Enfin, toutes ces réflexions-là, tous ces propos-là, ils nous paraissent super importants.
Et ça, ce propos-là, est-ce que tu l'ajoutes dans le livret de règles? Est-ce que pour l'expliciter d'autant plus?
Oui, on essaie justement, c'est un peu cet aspect-là où on n'est pas en mode, bon, on a mis un thème et c'est des pirates, débrouillez-vous, vous savez ce que c'est. Non, on met un édito pour donner l'intention, comme justement dans notre œuvre, l'intention que nous, on a, tu vois. Je l'associe, j'aime bien laisser de la place aux créateurs, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, etc., qui mettent un petit mot aussi pour qu'on sache de qui on parle et c'est quoi leur proposition. C'est vraiment,
à l'image d'un cartel dans une expo d'art contemporain où on nous explique un peu l'œuvre et on la remet en contexte.
Exactement.
Parce que c'est important aussi.
Exactement, oui. C'est l'explication de texte.
Et après, on peut être d'accord ou pas d'accord ou se dire... Oh,
Oui, ou n'importe quoi, ils sont totalement... C'est très bien d'écrire des mots qui veulent rien dire, mais voilà. En réalité, il se passe rien. Oui, et c'est ça qui est très marrant d'ailleurs. Et je trouve ça très humain et très intéressant de se dire que l'objet jeu n'est pas juste un objet. Qu'en fait, ça nous crée des émotions. Et je pense que là, tous ceux qui sont là et celles qui sont là aujourd'hui, on est là parce que ça nous a réussi à éveiller quelque chose en nous. On n'est pas là par hasard. C'est-à-dire qu'on trouve que ça a un intérêt supérieur. Et c'est ça que je trouve, c'est très intéressant dans l'objet en tant que tel. Même sans parler de thème ou de tout ce que je mets, genre l'objet jeu en tant que tel, on a quand même quelque chose aujourd'hui qui est en compétition avec des écrans, de la télévision, des choses qui sont très, qui nous demandent beaucoup d'attention avec plein de techniques qui sont faites pour nous donner envie. Et on arrive à se retrouver entre humains directement, juste avec une sorte d'excuse, mais qu'en fait, c'est des bouts de carton, quoi.
Et donc, au-delà de ce que tu mets dans les jeux, il y a aussi la façon dont tu les fais. Qui semble être importante pour toi?
Oui, parce que la façon dont on les fait, quand je parlais de monde réel, c'est qu'on n'est pas. On crée des bulles imaginatives dans nos règles, mais on reste les pieds sur terre. Et quand je fais. On va reprendre l'exemple du jeu sur l'environnement, parce que c'est évident, mais quand on fait un jeu comme Biomos, on essaie de réfléchir à l'impact qu'on a sur la planète, sur notre planète. Quand on parle de faire des planètes qui ont des environnements et des écosystèmes qui sont sains. Et c'est très marrant de voir que certains le s'en foutent totalement et que du coup proposent des jeux sur la nature qui ont un impact désastreux sur la nature sur Terre. C'est pour nous c'est impossible. Alors évidemment ça a des impacts sur notre économie, ça diminue largement nos marges et la façon dont on travaille, ça nous crée plus de problèmes d'un point de vue économique que de solutions. Mais pour nous il y a pas le choix. Il y a des choses qui se passent derrière et du coup on essaie de faire au mieux, sachant que de toute façon à partir du moment où on produit on pollue. Donc on n'est pas en train de dire qu'on est parfait, on est juste en train de dire que dans les connaissances actuelles, on essaie d'appliquer des choses, on essaie de mettre des labels qui garantissent, notamment le label FSC, qui garantissent normalement que les forêts sont gérées durablement, même si on sait, et on est totalement transparent là-dessus, que dans les faits, c'est pas totalement vrai. Même quand c'est labellisé, il y a des choses qui, dans le système actuel, sont dysfonctionnelles. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que s'il n'y a pas le label, c'est sûr que ça l'est dysfonctionnel. Donc, on essaie de le faire mieux, et on essaie aussi de pousser nos partenaires à s'améliorer là-dessus, et à proposer des choses qui fonctionnent, de faire, ça c'est partagé avec d'autres acteurs, d'autres actrices, mais de faire les jeux le plus proche possible de là où ils sont distribués, de les fabriquer avec des matières premières qui viennent aussi du coin, parce que des fois, on a des choses qui sont marquées, fabriquées dans tel pays, mais c'est juste assemblé dans tel pays, et les matières premières, on fait 4 fois le tour du monde. Donc en fait, on ne veut pas être dans l'aspect, on ne veut pas être dans le greenwashing, on veut être dans le concrètement, comment ça fonctionne le mieux.
Du coup, concrètement, quelles solutions tu as trouvées de ton côté?
Alors aujourd'hui, en Europe, on a... D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'ils ont une conférence tout à l'heure, je suis curieux de voir ce qu'ils vont raconter, mais il y a un partenaire en Europe qui s'appelle Fabrica Carte, qui propose un label Eco-Friendly Game, qui derrière implique des choses, comme par exemple, on ne met pas de vernis sur nos boîtes, parce que le vernis, c'est polluant et ça ne sert à rien. Peut-être que c'est un peu plus joli, mais bon, vu l'impact que ça a, on n'en met juste pas. Il n'y a pas de plastique qui entoure nos boîtes, c'est du cellophane compostable. Ça a plein de limites et aujourd'hui, c'est encore bien reconnu parce que dans le système de recyclage français, par exemple, on ne sait pas comment bien traiter ça, mais c'est juste de justement d'être acteur du changement et de dire que ce qui se passe là, sur les plastiques compostables, ce n'est pas visible parce que ce n'est pas du plastique, sauf que ça ressemble à du plastique. mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans la production, ça ne le soit pas. Parce que du coup, on montre qu'un monde sans plastique est possible. Et que c'est possible concrètement, c'est-à-dire qu'on fait des vraies productions, et même si évidemment on paye plus cher ça que si on le faisait pas, on arrive quand même à dégager une marge qui nous permet de continuer à faire des jeux. Évidemment, quand on fait ça, la plupart des acteurs sont un peu frileux, mais il y en a de plus en plus qui le font, et on se retrouve à montrer que c'est possible, et j'espère à réfléchir à changer les choses. Et de toute façon, j'ai l'intime conviction que si on le fait pas par choix, on le subira à un moment ou à un autre, et que ceux qui n'ont pas anticipé ou pas participé à ça, ça va poser problème.
Fabrica Carte, ils sont où? Donc c'est ton fabricant aujourd'hui?
Alors ça fait partie de mes fabricants, en fait. Je peux avoir différents fabricants. D'accord. Selon les jeux, mais les derniers jeux, on les a fait avec eux. Ils sont basés en Pologne.
D'accord. C'est un fabricant qui, en tout cas, qui se targue d'avoir une démarche écologique, je crois, c'est
oui,
ça hein.
Qui propose un label spécifique où ils garantissent, alors encore une fois avec toutes les limites que ça apporte, d'avoir, on peut choisir chez eux de faire une fabrication qui est labellisée, qui garantit des choses.
Parce que j'ai vu que tu avais reçu un prix de leur part.
Oui.
Donc ça a l'air d'être le prix du client le plus chiant en réalité.
Je pense que c'est ça. Ils nous ont tellement embêtés avec ces histoires que vraiment on a été étonnés parce que bon, il y a des acteurs beaucoup plus gros en réalité qu'à Fabrica. J'ai l'impression et j'espère que eux ils s'inscrivent dans cette démarche de se dire en fait on faut anticiper demain quoi. Que ce soit par choix idéologique, que ce soit par réalisme, juste, de toute façon, ça sera nécessaire. Et en plus, il y a les réglementations qui changent. Alors, je vais vous épargner tout le détail du côté juridique.
Parce que si j'ai bien compris, du coup, ce prix, c'est quelque part, c'est la reconnaissance de quelqu'un qui a des exigences et qui, du coup, les tire vers le haut, quoi. C'est un peu ça que j'ai compris derrière le truc.
C'est ce que je comprends aussi. Après, j'ai pas exactement le truc, mais oui, le prix, c'est Eco Publisher of the Year. Donc c'est-à-dire qu'ils ont trouvé qu'on était le plus chiant, mais bon les plus, enfin en tout cas qu'on a
plus exigeant.
On n'est pas en mode ok, on met un label et on est content. On essaie vraiment de comprendre comment ça fonctionne et d'aller le plus loin possible là-dessus pour faire mieux et espérer de modifier aussi les choses et que tout le monde puisse le faire en fait.
Du coup tu parlais tout à l'heure de modèle. Si tu devais donner toi ton modèle idéal de production, édition, je sais pas, dans le monde du jeu de société, ce serait quoi?
Ce serait de faire des jeux le plus local possible dans la fabrication et de pas faire des volumes pour faire du volume en espérant que ça fonctionne et après de devoir détruire les jeux ou de devoir dire on en a fait trop ou pas assez, mais d'essayer de réfléchir à une, on va prendre des termes classiques, mais à une production responsable par rapport à ce qu'on veut faire, et aussi surtout, quelque chose de très important, enlever le matériel qui sert à rien, arrêter de faire des boîtes grandes parce que ça se vend soi-disant mieux, et de réfléchir à l'impact de toute chose et à la valeur des choses, que la valeur elle est sur l'œuvre. Quand tu payes une place de cinéma, tu payes pas en fonction du nombre de minutes que tu regardes.
Peut-être une toute dernière question, on a été intrigué par le fait que t'avais pas de stand public.
Oui, à force de faire des jeux écologiques, on a plus de budget. Non, en vérité, c'est que on peut pas, cette année on a décidé de privilégier un peu le côté justement réseautage et professionnel.
Ouais,
donc on est présent sur l'espace pro. Mais on est aussi présent le soir, il y a nos auteurs qui ont des tables off, exactement, qui est un beau moment d'échange et de réseautage.
Quand tu dis nos auteurs sont off, c'est des protos qui sont chez toi, du coup?
Oui, ou pas forcément. C'est juste que cette année, comme ils ont mis payant le off, on a payé une table aux auteurs du dernier jeu. Donc
c'est toi qui as payé la table, du coup?
Oui, c'est ça. Okay. C'est bon, on voit des choses qui posent question, mais
C'est vous?
Oui, c'est ça.
Subverti.
Subverti. C'est l'entité Subverti qui a payé une table. Okay. Et après, voilà, bon, bref, j'épargne les détails, mais c'est une façon d'être présent là-dessus. Et on sera présent en public dans d'autres festivals, comme à l'Alchimie à Toulouse.
Ouais.
Qui est notre base.
C'est ton camp de base, t'es sur Toulouse, d'accord.
Exactement.
Okay.
Ah, j'avais quand même une question par rapport au projet Interférence.
Oui.
Qui nous a quand même un petit peu interpellé.
Intrigué, effectivement. Hein.
D'une production collaborative, c'est ça?
C'est ça. Alors, c'est même pire que ça, c'est qu'on a posé des questions aux gens en demandant ce qu'ils voulaient. Et on arrivait à un résultat qui était très intéressant, mais très complexe à réaliser. Interférence, on a posé des questions aux gens en utilisant l'intelligence collective.
Pas l'intelligence artificielle, à ne pas confondre.
Là, c'est des humains qui ont décidé. Et le résultat est assez intéressant parce que ça fait des choses qu'on ne s'attend pas. Et maintenant, il est dans une phase de développement plus classique. Où l'autrice qui a eu son jeu, parce qu'on a fait des protos, et c'est les gens qui ont sélectionné le proto qui les intéressait le plus. Mais il y a encore un peu de temps avant qu'ils sortent. Okay. Ça part en 2025-2026 au mieux.
Très, très schématiquement, c'est-à-dire qu'elle a proposé un prototype, c'est ça une base?
Alors c'est même plus compliqué que ça, c'est que j'avais créé à l'époque des pitchs de jeux à partir de quelque chose qui s'appelle Inktober, qui est dans le dessin où il y avait 30 mots pendant le mois d'octobre. Mm-hmm. Et j'avais créé 30 jeux, 30 concepts de jeux avec une petite boîte et une petite phrase.
D'accord.
Et à partir de ça, on a demandé aux gens lequel ils voulaient que ça existe.
D'accord, ouais.
Et à partir de ceux qui voulaient que ça existe, on a demandé plus de questions sur est-ce que c'est un jeu de stratégie, est-ce que c'est un jeu d'adresse, est-ce que c'est un jeu d'ambiance, quel type de jeu c'est, etc. Et à partir de tout ça, on a demandé à qui voulait, donc évidemment beaucoup d'auteurs et d'autrices, de créer des prototypes sur ces bases-là. Mm-hmm. Et après, on a fait voter les gens sur quel prototype ils pensaient qu'était le mieux,
leur plaisait le plus. Ouais.
Il y a eu une gagnante, du coup, Vinka. Ouais. qui a un jeu, normalement, c'est ce stade-là, personne n'a entendu parler.
Oui.
Et maintenant, on le développe plus classiquement pour arriver à quelque chose de...
D'accord.
Qui correspond à toutes ces questions-là. Et peut-être qu'après, on va refaire des questions, on sait rien, sur le thème, peut-être les gens, les personnages, les lieux, de faire participer. D'accord. Et évidemment, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est intéressant de voir ce que ça crée, parce que du coup, c'est pas...
Même, hein.
Ça laisse, entre guillemets, les...
Mmh. Ouais, l'émulation qui vient autour du jeu.
Exactement.
Ok.
C'est très bien. Écoute, merci beaucoup, Johan.
Et merci à vous deux.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.